Chers frères et sœurs et chers amis, je dois être absolument honnête envers vous et envers le Seigneur, car plus je scrute attentivement les Saintes Écritures, plus je me rends compte que tout n'est pas aussi simpliste que l'on pourrait s'imaginer. Donc, il est de mon devoir de vous apporter quelques corrections, car le Seigneur me rendra responsable si je ne le fais pas. J'ai souvent prêché ce que la plupart prêchent également, que Dieu n'est pas et ne peut jamais être l'auteur de la maladie ou de la mort. Eh bien, en étudiant de plus en plus, et depuis de longues années, les Saintes Écritures, on se rend compte que tout n'est pas aussi simple. Alors, je dirais, est-ce vraiment la vérité qu'on dit que Dieu ne peut en aucun cas être l'auteur de la maladie et de la mort? Et on dit que c'est Satan qui est l'auteur de toute maladie, des calamités et des catastrophes. Il y a du passé 90% de vrai. Alors je dirais, est-ce vraiment la vérité? Eh bien, j'aimerais vous poser quelques simples questions. Avez-vous un des problèmes suivants? Par exemple, une calvitie, donc pas de cheveux du tout, une myopie, les muscles qui se relâchent, la fatigue, Alzheimer, et tous les autres tremblements, des rides, des cheveux gris, peut-être un dentier, des lunettes, et j'en passe. On pourrait en dire encore beaucoup de choses. Alors, Dieu guérit aujourd'hui, c'est vrai. Là, il y a du vrai. Et rendre un autre verdict revient à écarter le témoignage biblique. Toutefois, cette précision ou cette précieuse vérité soulève un certain nombre de questions pressantes. Comment Dieu guérit-il de nos jours? Est-ce toujours la volonté de Dieu de guérir? Me guérira-t-il? Je ne connais aucun livre concernant la guérison divine qui va au cœur du sujet et donne tous les côtés de la vérité dans leur proportion scripturale. Certains ne voient que les passages qui mettent l'accent sur la capacité et l'empressement que Dieu a pour guérir nos maladies et ce qu'il a fait pour rendre une telle guérison possible de nos jours. D'autres ne s'occupent que des passages qui montrent bien que Dieu ne guérit pas toujours, ou qu'il a des façons différentes d'œuvrer selon ses différentes dispensations. On a grandement besoin de mieux connaître, de considérer avec une impartialité totale tout ce que Dieu a à dire à ce sujet. Donc, un enseignement qui n'aura qu'un seul but, découvrir exactement ce que Dieu nous enseigne concernant ce sujet de toute importance et tout ce qu'il nous enseigne. Notre but sera de découvrir tout ce que Dieu a prescrit contre les problèmes physiques, Nous ne pouvons que anticiper les réponses à nos questions de par l'étude mesurée de la Sainte Parole de Dieu. La Bible fait de la doctrine et de l'expérience des éléments essentiels dans la chrétienté saine, une expérience authentique de la vérité de Dieu. Eh bien, cela a toujours pour origine sa sainte parole rélevée. Donc, peu de domaines d'intérêt actuel sont davantage confus que la guérison divine. Parce que, voyez-vous, la disposition immuable de la vérité et de l'expérience de Dieu est souvent complètement changée ou même ignorée. Le fait de mal comprendre la relation de l'amour et de la vérité mène souvent à de fréquentes erreurs. L'amour découvre sa genèse dans la vérité et est défini comme marchant selon ses commandements. Deuxième livre de Saint Jean, chapitre 6. L'amour ne détermine jamais la vérité, bien qu'il soit indissolublement lié. L'expérience et l'amour sont tous les deux mesurés et exprimés au moyen des témoignages écrits de Dieu. Dire qu'un Dieu plein d'amour n'affligerait jamais quelqu'un d'une quelconque souffrance ou maladie revient à mal interpréter à la fois l'amour et les saintes écritures. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 13. Alors, examinons la cause d'une telle confusion. On a observé que la Bible est un réservoir littéraire dans lequel un enfant peut patauger, mais dans lequel un éléphant peut nager. Par exemple, vous avez Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Ce verset, il se lit plutôt très aisément, facilement. Cependant, l'eunuque éthiopien a eu besoin de Philippe pour interpréter Ésaïe, chapitre 53. Notez Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 31, qui est bien plus difficile que Jean 3, 16. Et ces textes problématiques rendent la Bible ô combien intéressante. Quand on n'aura plus rien à dire sur la Bible, alors ça ne sera plus la parole de Dieu. Nous ne venons jamais à bout de la Bible. Elle est aussi avisée dans ses réserves que dans ses révélations. Même si l'apôtre Pierre a dû fournir d'immenses efforts, il remarqua que certaines lettres de l'apôtre Paul contenaient des enseignements prophétiques assez difficiles à comprendre. Notez 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. Or, le thème de la guérison divine offre exactement le même défi. Des réponses aux questions ardues existent si nous les cherchons patiemment et par la prière. Aussi avec l'Esprit de Dieu comme notre garde de vérité, plongeons au fin fond du réservoir. La prière de l'apôtre Paul en ce qui nous concerne serait « Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Philippiens chapitre 1 verset 9 à 10. Chers amis, est-ce que Dieu doit vraiment nous guérir tous? Carl et Alice, ces deux enfants qui sont des grands enfants puisque ce sont des adultes, eh bien, le père Carl et Alice, sa femme, ils ont désiré le meilleur de Dieu pour leur famille de 6 personnes. Et on les comprend. Et Walter, qui était l'aîné, il souffrait de diabète. Et il recevait régulièrement des injections d'insuline. Quand Daniel Badia a tenu ses services spéciaux dans leur église, les parents ont amené à l'autel leur fils Walter, qui était en ce moment âgé de 11 ans. Donc nous avons compris que Carl et Alice sont ses parents. Ils ont cherché très sincèrement un miracle de guérison, et on les comprend. Le pasteur le déclara absolument guéri. Carl, le papa, tout joyeux, remplaça la dose d'insuline de Walter par les mots suivants: « Le Seigneur soit loué, alléluia, notre fils est guéri. Amen. » Mais, le résultat du test d'insuline de Walter qui s'en suivit montra qu'il en était tout autrement. Les parents qui avaient la foi vraiment sincère, exigèrent la guérison et ils attribuèrent les résultats inattendus du test à Satan. Or, peu après, Walter, le fils, a commencé à souffrir de nausées et de graves crampes d'estomac, indicateur prévisible d'un taux d'insuline trop bas. Ils décidèrent de remettre à plus tard les soins médicaux pour chercher la constante puissance absolue et curatrice de Dieu par l'intercession de la prière. Or, Walter tomba dans le coma et il mourut 3 jours plus tard. Or, le compte rendu du drame a été relaté dans Newsweek. Au Nigeria, un missionnaire vétéran qui servait dans la mission intérieure du Soudan fut ennuyé par ceux qui clamaient pratiquer la guérison divine. Il était accablé par les excès et écrit ses observations personnelles. « C'est un vrai problème, écrit-il. Beaucoup essayent de guérir, il y en a des milliers, et leur méthode vous déconcerterait. Or, je n'ai pas vu beaucoup de guérisons bibliques. Un intérêt mondial pour la guérison divine est en train de renaître dans les cercles séculaires chrétiens. Plusieurs circonstances ont convergé pour engendrer cette réalité contemporaine. Francis Schaeffer, un écrivain biblique qui a écrit de nombreux ouvrages et d'études très intéressantes, explique ses pensées avec une extraordinaire perception. On peut aussi établir un parallèle entre les nouveaux pentecôtistes et les libéraux. Les théologiens ne croient pas en le contenu ni en la vérité religieuse. Il existe vraiment des existentialistes qui utilisent la terminologie théologique chrétienne. En conséquence, ne croyant pas en la vérité, ils peuvent entrer en communion avec tout autre groupe axé sur l'expérience, utilisant le langage religieux. Un rejet ou un amoindrissement du contenu s'est produit dans le nouveau pentecôtisme. Au lieu d'accepter une personne en se basant sur ce qu'elle croit, ce qui a toujours été la façon d'agir des chrétiens, c'est « Avez-vous chez vous ces manifestations extérieures ?» Questions qui ont été considérées comme assez importantes pour causer des différences cruciales jusqu'à la période de la Réforme. La chrétienté expérimentielle est le truc à la mode aujourd'hui. Cet état d'esprit ne peut pas être restreint ou identifié à n'importe quelle tranche d'âge ou organisation confessionnelle. Le dénominateur commun qui unit des groupes différents, c'est l'expérience. Il proclame que la réalité de Dieu n'est exprimable que par l'expérience et que la pensée a conduit à de multiples excès où l'expérience essaye d'outrepasser les mandats divins. La société est également davantage malade que jamais. Un journal populaire a relaté que la sécurité sociale a enregistré une augmentation de 50% des paiements quant aux services médicaux durant les 5 dernières années. Cela a récemment dépassé, paraît-il, les 400 billions d'euros dans toute l'Europe et les États-Unis. La profession médicale avance chaque année de manière phénoménale dans sa guerre féroce contre la maladie. Pourtant, une société de plus en plus malade recherche la guérison instantanée, se tourne donc vers quiconque offre le chemin du soulagement le plus court. Bien que la guérison divine soit le nouveau centre d'intérêt du mouvement charismatique, pas deux groupes ne sont entièrement d'accord au sein du mouvement. Leur message inclut habituellement la promesse de guérison complète et immédiate de Dieu si les affligés répondent avec une foi totale. Les malades, qui d'après les médecins sont des cas désespérés et sont incapables de bouger sans l'intervention de Dieu, sont irrésistiblement attirés par l'espoir alléchant de la santé. La guérison par la foi est en vogue. Vous avez les noms de Allen, de Bosworth, MacCrossan, MacPherson et Price. Ils étaient sur les lèvres de tous ceux qui cherchaient la guérison ces dernières années et leur popularité était si grande qu'ils sont devenus connus de tous. Aujourd'hui, une nouvelle génération est née. Les guérisseurs qui défrayent la chronique incluent Anglais, Hagin, Osborne et Roberts, et leur ministère vont des hôpitaux au linge curateur. Oral Roberts a construit la Cité de la Foi, un complexe médical impressionnant sur le campus de l'université Oral Roberts. De futurs médecins, dentistes et infirmières y font leurs études. Ce n'est que un parmi plusieurs systèmes de délivrance dont Dieu se sert pour guérir selon Oral Roberts. Les guérisseurs par la foi, tels que T.L. et Daisy Osborne, opèrent également dans la cité de Oklahoma de Tulsa. Dans leur Faith Digest, les Osborne font de la pub. Guérison pour votre maladie. Succès pour vos échecs. Amour pour votre solitude. Bonheur pour votre affliction. Foi pour vos craintes. Prospérité pour votre pauvreté. La Fondation Osborne envoie un petit morceau de tissu au lecteur de son magazine. Il y est suggéré que le lecteur rédige le miracle spécial dont il aurait besoin de la part de Dieu et le poster avec le morceau de tissu à la fondation. Sur l'enveloppe fournie à cet effet, on peut lire Actes chapitre 19 versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de saint Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Récemment, une femme qui avait une tumeur maligne et inopérable, et ceci au cerveau, leur a téléphoné aux Osborne et on leur demandait avec insistance de faire comme saint Paul, Actes chapitre 19 versets 11 et 12. Ils ont donc tenu un morceau de tissu dans les mains tout en priant pour la femme, puis ils le lui renvoyèrent en tant que point de contact pour la foi. Elle le posa sur sa tête pour prier et elle fut miraculeusement guérie. Ce genre de choses s'est produit des centaines de fois. Chers amis, l'Église est dans un état de confusion quant à la guérison divine. Des questions comme celle-ci en laissent plus d'un perplexe, on peut le dire. Alors on se pose la question, est-ce vraiment vrai? Si ça ne l'est pas, comment puis-je expliquer certaines des guérisons apparentes? Comment cela marche-t-il? Si ça marche, pourquoi devrais-je ignorer ou renier une bonne chose? Pourquoi cette soudaine apparence ou augmentation de guérison, si cela était possible depuis le début? Est-ce donc biblique? Pourquoi suis-je malade? Devrais-je arrêter de prendre des médicaments? Pourquoi n'ai-je pas été guéri? Pourquoi est-ce que certains dans le mouvement de guérison sont quand même malade? Pourquoi tous ceux qui font partie du mouvement de guérison meurent? Peut-être vous êtes-vous posé quelques-unes de ces questions, et il ne fait aucun doute que beaucoup de ces mêmes questions meurtrissent le cœur des parents, même s'ils avaient placé leur foi totale en Dieu. Rappelez-vous, Walter, le fils aîné, il est mort. Et récemment, un homme de loi m'a fait partager une lettre qu'il a reçue de Karl, donc du papa. Et des années ont passé depuis la mort de Walter. Karl s'est battu pour la vérité et l'a trouvée en prenant conseil dans la Sainte Bible. Et voici ce que dit la lettre. J'écris cette lettre avec en quelque sorte l'espoir et la prière que je puisse partager avec vous une leçon que j'ai apprise à grands frais. Ce n'est que par la grâce de Dieu et par l'amour inébranlable et absolu de Jésus-Christ notre Seigneur que ma femme et moi avons été capables de surmonter cette épreuve. Bien que nous ayons été bouleversés, nous savions que nous devions garder la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Après quelques mois, ma femme fut capable d'accepter le fait que Walter devait rester avec Jésus-Christ, mais pour ma part, ça m'a pris 3 ans. Nous voulions que notre fils soit guéri. Mais nous, nous y sommes mal pris, car durant notre procès pour homicide et crimes involontaires et mauvais traitements infligés aux enfants, ma femme éprouva qu'elle pouvait me dire ce que le Seigneur lui avait montré. Et elle m'a dit que notre amour, parce qu'il faisait défaut, c'est cela qui causa la perte de Walter et que la parole de Dieu dit, l'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8. Et j'ai su alors que nous avions laissé ce que nous pensions être de la foi nous faire oublier d'aimer. Tout en priant pour Walter et en le voyant de toute évidence souffrir, notre amour pour lui voulait lui donner l'insuline qui, nous le savions, aurait mis fin à ses souffrances. Toutefois, nous avons pensé que ceci aurait été un manque de foi et lui aurait coûté la guérison. Nous avons appris que nos agissements étaient contraires à ce que disent les Saintes Écritures. La parole de Dieu dit que l'amour est plus grand que la foi. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. L'ennui est que nous confondions la foi et la croyance. Nous pensions qu'en croyant assez fort, la guérison aurait lieu. Nous lions la guérison à une certaine aptitude de notre part à croire suffisamment, c'est-à-dire à avoir assez de foi. Ne pas avoir recours aux médicaments, et spécialement les médicaments vivifiants, est un acte très présomptueux de notre part qui va entraver réellement le travail de l'Esprit de Dieu. Ma prière est que vous prendrez ces pensées en considération dans le détail. Elles sont venues à un prix inestimable que personne ne payerait volontairement. Je suis touché par l'honnêteté de Karl et l'atroce douleur qu'il a subie. Le résultat est donc réel. La vie d'être cher est mise en jeu. Dieu a guéri et il en a toujours la possibilité, mais il le fait toujours en accord avec ses propres desseins, à sa manière. Et quand il l'a décidé, alors compulsons ces annales de vérité révélées pour trouver les réponses à nos questions. Voyons un peu les annales curatrices de l'Ancien Testament. Le fait se plonger 7 fois dans le Jourdain guérit un général de la lèpre. Notez 2 Rois, chapitre 5, verset 14. Une armée de 185 000 hommes est morte dans son sommeil la même nuit. Ésaïe 37, verset 36. Un célèbre dirigeant mondial fut soudain frappé de boanthropie. 7 ans plus tard, il recouvra la santé et retrouva son importance internationale. Notez Daniel, chapitre 4, versets 33 et 34. Que ont tous ces événements uniques en commun? Ils illustrent tous la participation directe du potier concernant les affaires physiques de sa poterie humaine. Dieu guérit Naaman, tandis que l'armée assyrienne de Sennachérib expira selon la volonté de Dieu. Dieu destitua, puis plus tard restitua le roi babylonien Nebuchadnezzar. L'Ancien Testament relate également l'explication de Dieu. L'Éternel lui dit : qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Exode chapitre 4, verset 11. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la pluie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Job, chapitre 5, versets 17 et 18. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe, chapitre 45, verset 7. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 et 38. Quel témoignage de sa propre déclaration, Dieu est ultimement responsable de la santé et de la maladie, de la vie ou de la mort. Cependant, on ne peut pas tirer de conclusions sensées quant aux engagements actuels de Dieu avant d'avoir compulsé la Sainte Bible. Chers amis, Dieu frappa durement. Oui, Dieu affligea physiquement des personnes à de nombreuses reprises. Cet aspect réel de la justice de Dieu échappe souvent à notre attention. Dieu accabla les Égyptiens quand ils refusèrent de laisser les Juifs retourner en Palestine. Au lieu, on peut dire, au milieu de la nuit. Voyez-vous, au milieu de la nuit, l'Éternel a frappé tous les nouveau-nés dans le pays d'Égypte, et ceci depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y a eu de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y a pas eu un mort. Exode chapitre 12, versets 29 et 30. Littéralement, des milliers de nouveau-nés sont morts pour punir la désobéissance d'une nation. Dieu n'est pas non plus toujours facile avec les siens. Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, ils étaient depuis peu dans le ministère. Au tout début de leur service, ils offrirent un feu étrange au Seigneur que celui-ci n'avait point ordonné. Or le feu sortit de devant le Seigneur et les consuma. Lévitique chapitre 10, versets 1 et 2. Ils moururent sur le champ, comme un avertissement à la nation de la gravité du péché. Un des faits les moins connus de l'Ancien Testament est que Ézéchiel est devenu veuf au milieu de son ministère prophétique. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et les larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets tes chaussures, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, j'ai fait ce qui m'avait été ordonné. Ézéchiel chapitre 24, versets 16 à 18. Chers amis, les méthodes de guérison varient. Dieu n'a pas fait qu'accabler, mais il a aussi guéri. Personne ne peut accuser Dieu d'avoir une technique préférée de guérison. Les moyens varient largement. Par exemple, Moïse pria afin que Myriam soit guérie de la lèpre. Nombre 12, verset 13. 7 jours plus tard, tous passés hors du camp, Myriam est revenue guérie et elle a pu rejoindre l'assemblée. Nebuchadnezzar recouvra la santé après que Dieu l'a accablé 7 années selon l'horaire promis par Dieu. Daniel chapitre 4, versets 28 à 37. Le général syrien Naaman sortit de l'eau après avoir pris 7 bains dans le Jourdain et il a découvert que sa lèpre avait disparu. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 14. Une guérison se produisit dans le désert de Judée. Le peuple est venu à Moïse et a dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse a fait un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et qui avait regardé le serpent d'airain conservait la vie. Nombre, chapitre 21, versets 1 à 9. Chers amis, il semble qu'il n'y avait aucune norme dans l'Ancien Testament concernant une méthode de guérison que Dieu favoriserait immanquablement. Alors, la maladie, elle est parfois reliée au péché. Eh oui, une personne était atteinte d'un problème physique, aussi direct d'un péché personnel, bien que la personne concernée ne fût pas toujours celle qui avait péché. C'était donc la cause directe du péché qui avait provoqué la maladie. Étonnamment, il semble que quand l'affliction a été infligée d'une façon des plus pertinentes, elle ne l'était pas. Après que Aaron avait poussé la nation à l'idolâtrie, eh bien le Seigneur a frappé le peuple, mais il n'a pas frappé Aaron. Exode chapitre 32, verset 35. Nous ne comprenons pas tout, et moi le premier. En d'autres occasions, celui qui pécha, qui avait commis les péchés, a reçu le châtiment physique de Dieu. Par exemple, Myriam, elle a été frappée de la lèpre pour avoir remis en question les qualités du chef de Moïse. Nombre chapitre 12, versets 1 à 15. Et Cora, elle est morte lors de sa rébellion contre Moïse. Nombre chapitre 16, versets 1 à 50. Parfois même, une personne qui n'avait pas péché était la cible de l'affliction de Dieu. L'exemple le plus éloquent est l'enfant qui naquit de la relation immorale entre David et Bathsheba. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 23. Dieu guérit également les incrédules. Avoir une relation salvatrice avec Dieu n'était pas même nécessaire pour être guéri. Les cas les plus conséquents sont ceux d'un général syrien, 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14, et d'un roi babylonien, Daniel chapitre 4, versets 28 à 37. Dieu guérit qui il veut. Dieu rendit la vie dans l'Ancien Testament tout entier. Seulement trois personnes ont été ressuscitées. Le fils de la veuve de Sarepta a été guéri par la main d'Élisée. 1 Rois chapitre 17, versets 17 à 24. Élisée ressuscita le fils de la Tsunammite. Deux Rois chapitre 4, versets 18 à 37. Le troisième exemple est inoubliable. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites ont pénétré dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21. Inutile de dire que cette résurrection était unique en son genre. Des saints peuvent également être malades. Job a eu subitement un ulcère malin. Job chapitre 2 verset 7. Mais Dieu l'a guéri finalement. Chapitre 42 verset 10. En résumé, voici les annales révélées. Des saints souffrirent, Dieu frappa durement, les méthodes de guérison varièrent, des incrédules se rétablirent, des pécheurs ne furent pas punis physiquement, des innocents ont été frappés, Satan était insignifiant, les résurrections étaient rares, les exigences de foi, curieusement, ne sont jamais mentionnées. Chers amis, que pouvons-nous conclure d'après ces faits? En gros, ceci, les interventions spéciales de Dieu pendant les années qui séparent Moïse, 1400 ans avec Jésus-Christ, et Malachie, 400 ans avec Jésus-Christ, ne répondent pas du tout aux attentes de la plupart des gens. Et voyons maintenant les annales curatrices de l'Évangile. Une illustre collection de records commence comme suit. Les voici. Les plus grands, les plus longs, les plus profonds, les plus hauts, les plus rapides, les plus enrichissants, les plus nouveaux, les plus étonnants, les plus spectaculaires, les plus incroyables, remplis de faits fantastiques et de chiffres fascinants et entièrement documentés. Le voici. De quel livre s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du livre du Guinness des records. Cependant, une introduction au ministère curateur du Christ se lit avec des superlatifs encore plus grands. Jésus-Christ a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Saint Jean chapitre 21 verset 25. Le New International Dictionary, nouveau dictionnaire international de Webster, définit le mot unique comme étant sans pareil ou égal. Aucun autre mot ne dépeint si précisément les miracles de guérison du Christ. En aucune autre époque de toute l'histoire humaine, autant de gens ont été guéris d'une telle multitude de maladies en aussi peu de temps que le ministère public du Christ. L'histoire ne s'est pas répétée. Le ministère curateur du Christ était réellement unique et reste sans égal. Diverses raisons existent pour le ministère curateur du Christ et toutes contribuent à l'authenticité de la personne de Jésus-Christ comme étant le véritable Messie. Les miracles de guérison ne furent jamais exécutés pour leur bénéfice physique simplement, comme on peut le voir dans les passages du Nouveau Testament. Notez Matthieu, chapitre 8, verset 17, un aperçu de l'accomplissement de la prophétie messianique dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Notez Matthieu, chapitre 9, verset 6, et Saint Marc chapitre 2 verset 10, ainsi que Saint Luc chapitre 5 verset 24, afin que le peuple sût que le Christ avait l'autorité de pardonner les péchés. Notez Saint Jean chapitre 9 verset 3, afin que les miracles de Dieu puissent être visualisés dans le Christ. Saint Jean chapitre 11 verset 4, pour la gloire de Dieu par le biais du Christ. Saint Jean chapitre 20 verset 30 et 31, afin que les hommes croient que Jésus-Christ est le Christ. Actes chapitre 22 verset 22, l'authenticité de Dieu du Christ. Chers amis, la guérison avait donc un but. Bien que les miracles de Jésus-Christ ont été abondants, il n'en faisait pas au hasard. Il ne guérissait pas toujours quiconque en avait besoin. Saint Jean chapitre 5, versets 3 à 5. Il n'exécutait pas non plus de signes à la demande de tout un chacun. Saint Matthieu chapitre 12, versets 38 et 40. Il n'usa pas non plus de ses pouvoirs pour éviter la croix. Chapitre 26, versets 52 et 53. La guérison était le plus souvent absolument immédiate, à l'exception de trois guérisons. Toutes les autres guérisons du Christ ont été instantanées. Aucune période de récupération n'était nécessaire. Les affligés recouvraient immédiatement la santé. Il n'y avait aucune rechute ni aucun malentendu concernant leur guérison. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Saint Matthieu, chapitre 9, versets 6 et 7. Trois retards de quelques minutes seulement ont eu lieu concernant la guérison, mais les hommes concernés ont été totalement guéris. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus-Christ un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus-Christ lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il pouvait voir absolument tout distinctement. Alors Jésus-Christ le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Saint Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Que penser des guérisons par défaut? La présence physique de Jésus-Christ n'était pas toujours nécessaire pour que la guérison se produise. Il pensait ou prononçait simplement le mot et la guérison s'accomplissait. Par exemple, un esclave du centurion, notez Saint Matthieu chapitre 8 verset 5 à 13, et une fille de Cananéenne, notez Saint Matthieu chapitre 15 verset 11 à 28, ont reçu la guérison de cette façon-là, tout comme le fils d'un officier de Capernaum. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Va, lui dit Jésus-Christ, car ton fils vit. » Et cet homme crut la parole que Jésus-Christ lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant, il vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Saint Jean, chapitre 4, versets 49 à 53. Chers amis, les méthodes de guérison varient. Tout comme avec les guérisons de l'Ancien Testament, Jésus-Christ utilisa diverses méthodes de guérison. Parce qu'il s'agissait de la puissance curatrice de Dieu, il n'y avait rien de magique ou curateur dans la méthode d'elle-même. Premièrement, le Christ toucha, Saint Matthieu 8, verset 15. Deuxièmement, le Christ parla, Saint Jean 5, versets 8 et 9. Troisièmement, les affligés touchèrent l'habit du Christ, Saint Matthieu, chapitre 9, versets 20 à 22. Quatrièmement, le Christ utilisa de la salive, Saint Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Cinquièmement, le Christ a mis les doigts dans les oreilles d'un homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Saint Marc, chapitre 7, versets 33 à 35. Et sixièmement, le Christ oignit debout. Saint Jean, chapitre 9, verset 6. Jésus-Christ approuvait les docteurs. Jésus reconnaissait les docteurs et les médicaments et le moyen normal de guérison physique. Pas une seule fois rabaissa-t-il la profession médicale. Un jour, il déclara « Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. » Saint Matthieu, chapitre 9, verset 12. Il parla avec approbation du Samaritain qui utilisait de l'huile, du vin et des bandages pour aider un juif. Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. La guérison, elle est pour la gloire de Dieu. Un jour, Marthe et Marie sont venues voir Jésus-Christ et lui demandèrent de guérir leur frère Lazare. Il répondit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Saint Jean, chapitre 11, verset 4. Chers amis, le ministère curateur du Christ était absolument unique. L'accent est fortement mis sur le fait que jamais dans toute l'histoire, on n'avait connu un ministère curateur pareil à celui du Christ. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Saint Matthieu, chapitre 9, versets 32 et 33. Jésus-Christ évitait les acclamations. Jésus-Christ quitta son chemin pour éviter l'approbation ou la récompense publique pour ses miracles. Dans Saint Luc, chapitre 10, verset 20, il dit explicitement aux disciples de ne pas se réjouir du pouvoir qui leur avait été conféré, mais de se réjouir du fait que leur nom fussent enregistrés au ciel. Le Christ ne chercha jamais ni célébrité ni fortune par la guérison. Pour un temps, il attira des multitudes de gens qui entendirent son message, mais plus tard, ils le crucifièrent en dépit de tous les miracles. Les guérisons de Jésus-Christ étaient incontestables. La déclaration la plus étonnante concernant le ministère du Christ provient des pharisiens et des prêtres. La Bible dit « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, donc le Sanhédrin, et ils ont dit « Mais que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Saint Jean chapitre 11, versets 47 et 48. Il est donc clair que la guérison ne sauve pas, qu'on comprenne bien cela. Les miracles du Christ étaient indéniables. Saint Jean chapitre 3, verset 2. Mais il ne menait pas nécessairement à la foi. Par exemple, prenez Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Saint Luc chapitre 10 verset 12 à 15. La foi n'était pas toujours nécessaire, car une fois, donc, il y avait une foi personnelle, je viens de le dire, n'a pas toujours été nécessaire pour guérir. Et ça, c'est certain. Il est évident que, par exemple, Lazare, selon Saint Jean chapitre 11, ainsi que la fille de Jaïrus, notez Saint Matthieu chapitre 9, ainsi que le fils de la veuve, Saint Luc chapitre 7, ils étaient incapables de montrer de la foi. Pourtant, ils ont été ressuscités. De plus, partout où Jésus-Christ a guéri les multitudes, on peut présumer que la plupart, sinon tous, étaient incrédules. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux sont venus à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et ils dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les a vus, il leur a dit « Allez, allez vous montrer aux sacrificateurs ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris, et l'un d'eux, se voyant guéri, est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba même sur sa face, aux pieds de Jésus, et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus-Christ, prenant la parole, lui dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et pour donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, car ta foi t'a sauvé. Saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Alléluia, gloire à Dieu. Avant de terminer cette étude, sachez que les guérisons n'étaient jamais planifiées à l'avance. Jésus-Christ guérit du début de son ministère, selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 23 à 25, jusqu'à la fin, saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 44. Souvent, il s'approchait de la personne comme il l'a fait avec les boiteux à la piscine de Bethesda, saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. De plus, Jésus-Christ guérissait toujours durant le cours normal de son ministère journalier. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient: « Aie pitié de nous, fils de David !» Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oh oui, Seigneur !» lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant: « Qu'il soit fait selon votre foi !» Saint Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 29. Toutes les maladies ne sont pas causées directement par Satan ou les démons. Mais ceux qui sont possédés par des démons sont enclins aux maladies physiques. Un exemple classique se trouve dans Saint Luc, chapitre 13, versets 10 à 17, où une femme liée par Satan, peut-être par le biais d'un démon, resta courbée pendant 18 ans. Vu que le Christ avait volontairement abandonné l'exercice indépendant de ses attributs divins, sa puissance curatrice venait de Dieu le Père. Elle n'était pas autoproduite. C'est pour l'expérience et par l'expérience de Dieu qu'il chassa les démons. Saint Matthieu 12, verset 28. La puissance du Dieu le Père reposait sur Jésus-Christ et se manifestait par des guérisons. Saint Luc, chapitre 5, verset 17. C'est par le doigt de Dieu qu'il chasse les démons. Saint Luc, chapitre 11, verset 20. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Saint Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu lui-même a accrédité auprès de vous par les miracles, les signes et les actes extraordinaires qu'il a accomplis par la puissance divine. Actes, chapitre 2, verset 22. Le Christ a guéri parce que Dieu le Père était avec lui. Actes, chapitre 10, verset 38. Des gens autres que le Christ accomplirent des guérisons dans les récits évangéliques. Par exemple, les disciples étaient envoyés par Jésus-Christ lui-même à leur excursion curatrice et évangélisatrice. Saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 15. De la même manière, 70 autres disciples ont reçu du Seigneur la mission de prêcher et de guérir. Saint Luc chapitre 10, versets 1 à 16. La preuve est convaincante. Les guérisons du Christ ont été indéniables, spectaculaires, extrêmement réjouissantes, abondantes et impressionnantes. Personne avant ou depuis n'a approché la puissance curatrice de Jésus-Christ, pas même un tout petit peu. Il est donc unique. Cependant, la puissance curatrice de Dieu ne s'est pas arrêtée avec son Fils, mais elle a continué grâce aux apôtres. Les Actes et les Épîtres racontent cette histoire. Nous avons également les annales curatrices dans les Actes et les Épîtres, car le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Mais il y a des choses où nous n'avons pas toutes les réponses. Saint Paul recommanda un peu de vin à Timothée. Notez 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Donc, comme dans le cas de ce papa et la maman, eh bien, l'insuline aurait été absolument importante et ça n'empêche pas de prier pour la guérison. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, merci que tu as donné ton Fils bien-aimé et que nous pouvons dire de tout cœur: oui, Jésus-Christ est venu pour nous donner la chose la plus importante pour notre existence présente, mais surtout pour l'éternité, qui concerne le salut de notre âme et notre esprit. Ensuite, tu nous demandes, avec ton amour incommensurable, veux-tu être guéri? Nous te demandons pardon de tous nos doutes et scepticismes. Je dis maintenant, pour tous ceux qui ont écouté ce message, que j'ordonne solennellement, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que soit chassé tout doute, tout scepticisme et incrédulité. Merci, Seigneur, que tu guéris maintenant tous ceux qui humblement t'invoquent de tout leur cœur et les restent corps, âme et esprit. Nous te remercions pour ta compassion et nous ne voulons pas oublier de te demander pardon de tous nos péchés et nous demandons pardon à tous ceux que nous avons fait du mal, même ce qui a pu être fait involontairement. Amen. Amen.